Les deux orphelines, cinquième partie, chapitre 5. Le docteur Hébert, en se présentant à l'hôtel du lieutenant de police, avait jugé que l'entrevue entre le chevalier de Vaudreuil et son oncle avait déjà dû prendre fin. Il savait que le premier choc étant donné de part et d'autre, il y avait lieu pour lui de tenter la démarche délicate qu'il s'était mise en tête de faire aboutir. Or, en voyant avec quel empressement le magistrat accourait au-devant de son visiteur, M. Hébert ne douta plus que le terrain sur lequel il allait agir ne fût bien préparé. Aussi se sentit-il plein de courage pour la réalisation de l'idée généreuse qu'il avait conçue. Mais il ne s'attendait pas à se trouver si tôt en présence de la comtesse. En l'apercevant assise dans le fauteuil, ayant Roger auprès d'elle, Roger dont le visage témoignait de l'accueil qui lui avait été fait par son oncle, M. Hébert ne put se défendre d'un mouvement de surprise nuancé d'un peu de contrariété. Il s'était attendu à ce que la scène qui allait suivre n'aurait pas la malade pour témoin. Toutefois, il ne laissa rien paraître de son impression. Et s'avançant vers la comtesse qui lui tendait la main, « Eh bien, comment ?» lui dit-il avec douceur. « Lever sans ma permission ?»« Qu'importe, docteur ?» soupira Diane. « Il m'importe beaucoup à moi, qui l'avais défendu, tant que cette fièvre si tenace n'aurait pas cédé. » « Voyons, » gourmanda le médecin. Il avait pris la main de la malade et secoua tristement la tête en regardant le comte. Puis tout bas, et comme se parlant à soi-même. « Toujours cette fièvre, et plus violente encore !» Madame de Linière baissait les yeux. Elle redoutait que le docteur ne pénétrât son secret. Aujourd'hui, surtout, elle ne se sentait pas absolument maîtresse d'elle-même. Cependant, elle avait voulu répondre quelque chose, ne fût-ce que pour dissimuler l'émotion qui l'étreignait au cœur, et d'une voix saccadée. « Docteur, » dit-elle, « il me semble que le grand air me ferait du bien. »« Le grand air ?» s'exclama le médecin étonné. « Oui, docteur, je voudrais sortir. »«
Sortir ?»
M. Hébert regarda longuement la malade pour voir si celle-ci parlait sérieusement. Mais Diane poursuivit avec plus de volubilité, songeant à sa fille, à la misérable petite aveugle qu'elle avait vue mendiant dans la rue. « Je voudrais reprendre mes courses d'autrefois, monter dans les mansardes, revoir mes pauvres et d'autres encore, ceux que la misère et la faim forcent à mendier. Je voudrais les voir tous, tous !» Cette animation troublait le médecin dont le regard inquiet alla chercher le comte et Roger, qui s'étaient retirés un peu au fond pendant la consultation qu'il supposait que M. Hébert donnait à sa malade. Il ne pouvait en effet se douter du sujet qui faisait les frais de cette conversation, et surtout que le docteur eût à défendre à la comtesse de commettre une grande imprudence. « Vous êtes hors d'état de sortir !» disait-il avec un imperceptible mouvement d'humeur. « Ne pouvez-vous pas envoyer des secours à ces malheureux ?»«
Non, ce n'est pas cela, » insistait Madame de Linière. « Je veux les voir. »
Elle s'était redressée et regardait le docteur avec une expression où il y avait de l'effarement. Tout à coup, elle prononça ces mots avec plus de force et en appuyant ses deux mains sur son cœur.
« Vous me dites toujours qu'il y a là un poids qui m'étouffe. Ce sont des larmes qui ne peuvent couler. Eh bien, je crois que la vue de ces infortunés me ferait pleurer. »«
Qu'à cela ne tienne ?» interrompit M. Hébert. « J'ai de touchantes infortunes que je puis vous montrer. »
Et lui prenant la main. « Tenez, » ajouta-t-il, « il y a quelques jours, par exemple, dans la cour de la Salpêtrière. »«
De la Salpêtrière ?»
fit la comtesse qui, des yeux, indiqua Roger au médecin, comme pour l'inviter à parler plus bas. M. Hébert avait-il voulu, en élevant la voix, que les deux hommes l'entendissent ? Toujours est-il que le chevalier de Vaudreuil se rapprocha aussitôt, tandis que de son côté, M. de Linière se disposait à ne plus perdre un mot de ce qui allait se dire. Le docteur n'eut pas l'air de remarquer ce changement dans l'attitude des deux personnages. Il continua en affectant de ne s'adresser qu'à la comtesse. Une douzaine de femmes ramassées dans Paris allaient être expédiées à la Louisiane. Parmi ces pauvres exilés, il y en avait une, seule, abandonnée dans Paris. Sa sœur, presque une enfant, dont elle était autrefois l'unique appui, se trouvait n'avoir plus d'autres ressources que de mendier en chantant dans les rues.
« Oh mon Dieu !»
s'exclama la comtesse toute tremblante. Roger était devenu subitement inquiet. Son émotion se lisait sur son visage, dont les yeux interrogeaient maintenant le docteur avec anxiété. M. Hébert ne sourcilla pas, et s'adressant toujours à la comtesse, « Et ce qui rend cette misère, continua-t-il, plus douloureuse encore, la pauvre enfant est aveugle. » Diane, n'y tenant plus, s'était levée dans un mouvement fiévreux.
« Aveugle ? Aveugle ? »
fit-elle en joignant les mains avec force.
« Oui, madame, poursuivit le médecin, et des misérables n'avaient pas craint de spéculer sur son infortune. Elle s'est échappée de leurs mains. Elle s'est réfugiée auprès de moi. »
Rien ne saurait dépeindre le ton, l'expression, la force avec lesquelles madame de Lignières lança l'exclamation suivante.
« Ah, vous ne l'avez pas repoussée ?»
Le chevalier de Vaudreuil eut un long tressaillement et se rapprocha pour soutenir la malade qui venait de faire une dépense de force si redoutable dans sa situation. M. de Lignières, stupéfait de cette virulence à laquelle Diane ne l'avait pas habitué, demeura immobile à la même place. Mais son regard, devenu tout à coup ardent, ne quittait pas le visage du médecin. Le comte attendait avec anxiété la réponse que formulerait M. Hébert. Celui-ci reprit.
« Elle s'était réfugiée auprès de moi, et je ne l'ai pas repoussée.
Non, assurément. Chasse-t-on le pauvre oiseau qui, par un jour d'hiver, franchit votre fenêtre ?
On le prend, on le réchauffe, on le ranime, et puis on lui cherche un asile. Et c'est pour cela que je suis ici. »
La comtesse avait écouté, émue et retenant à peine les larmes qui lui montaient du cœur.
« Achevez, dit-elle au docteur.
Mais déjà, M. Hébert s'était tourné vers le lieutenant de police et disait à celui-ci. « Monsieur le comte, vous avez, sans le vouloir, contribué à ce malheur. Et vous consentirez à l'adoucir. »«
Moi ?»
M. de Lignières eut un haut-le-corps. Mais le docteur était parti en campagne et il continua en lançant de côté un regard à la malade. « Vous le ferez, j'en suis certain. Et madame la comtesse vous y aidera. J'en suis également assuré, car la voilà qui s'émeut, qui s'attendrit. » En effet, Diane avait porté vivement la main à ses yeux humides de larmes, contenus à grand-peine. « Que sera-ce donc, reprit le médecin, quand elle verra ma protégée tomber suppliante à ses pieds ?» Puis s'adressant au comte qu'il jugea suffisamment ébranlé. « Allons, vous permettez, n'est-ce pas ?» Le comte ne fit pas attendre sa réponse. « Soit, dit-il, je le permets. Amenez-la quand vous voudrez. » Le docteur eut un éclat de joie dans la voix, en même temps que ses regards s'illuminaient.
« Quand je voudrais ? » s'écria-t-il.
« Eh bien, tout de suite alors !»«
Comment ? »
firent en même temps les trois autres personnes qui assistaient à cette scène. M. Hébert jouissait de la surprise de tous. Ce premier succès était pour lui d'un grand prix, car il lui donnait la quasi-certitude que le comte, s'étant laissé prendre une première fois, il ne voudrait pas revenir sur la permission qu'il accordait. Aussi prit-il un temps pour bien préparer l'effet qu'il avait voulu obtenir et dont il espérait merveille pour le résultat final de sa combinaison. Il s'inclina devant le magistrat en disant « Je puis vous présenter tout de suite ma protégée, monsieur le comte. Je l'avais à tout hasard conduite ici. » La phrase était à peine prononcée que la comtesse se levait hors d'elle-même et acceptait l'appui du bras que Roger lui présentait. Et à bout d'émotion, en dépit de la présence du comte, elle disait à son neveu stupéfait.
« Elle est ici, près de lui, dans la maison de mon mari ?»
Quant au docteur, il pensait « La petite d'abord. » Et se dirigeant à la hâte vers la porte, il l'ouvrit et disparaissait en disant
« Venez, mon enfant, venez !»
Le chevalier de Vaudreuil avait pu apercevoir la personne que le médecin appelait ainsi.
« Oh, madame !» dit-il bas à la comtesse. « C'est la sœur d'Henriette. »
Alors, cette mère exhala pour la première fois le mot qui l'étouffait et dont son cœur était plein.
« C'est ma fille, Roger » murmura-t-elle d'une voix mourante. « C'est ma fille !»« Votre fille !»
Et le chevalier adressa à sa seconde mère un regard où il y avait toute la tendresse et tout le respect d'un fils. Qu'allait-il se passer entre ces personnages que le docteur Hébert, en venant à l'hôtel de Lignières, n'avait pas cru rencontrer si nombreux? Il espérait tout au moins que la femme du lieutenant de police, retenue dans sa chambre par la fièvre, n'assisterait pas à la scène qui, dans sa pensée, allait se dérouler entre lui et le magistrat. Il comptait même pouvoir, au moment voulu, éloigner le chevalier de Vaudrey, afin de ne pas mettre l'amour-propre du comte à une trop rude épreuve. Mais, comme il était maintenant trop lancé dans le rôle qu'il s'était donné, il voulut pousser jusqu'au bout et compléter sa démarche avec résolution. Or, pendant qu'il avait disparu pour aller chercher celle qu'il voulait présenter suppliante au comte, les trois personnes, demeurées dans le salon, passaient par des impressions bien différentes. Nous savons déjà que Roger était sous le coup d'une stupéfaction violente à la confidence que la comtesse lui avait faite dans un cri de douleur. Après cette parole arrachée de son cœur, Diane était retombée dans une sorte de défaillance morale qui contrastait avec la violente émotion que trahissaient les regards à la fois anxieux et effarés qu'elle lançait du côté de la porte. Appuyée au bras de son neveu, ne se demandait-elle pas en ce moment si elle aurait la force et le courage de supporter, indifférente, la vue de celle qu'elle venait de proclamer sa fille? Certes, si le docteur Hébert eût pu se douter, en conduisant les deux orphelines à l'hôtel de Lignières, qu'il allait, par cette démarche, mettre une enfant abandonnée en présence de la mère atteinte profondément au cœur par le remords, il eût tremblé pour les conséquences qui devaient survenir. Mais dans son ignorance de la vérité, il ne s'était occupé que du soin de triompher du caractère violent du comte et de remporter, par surprise, une victoire éclatante sur l'amour-propre du magistrat. Or, tout troublé par cette manœuvre habile qu'il n'avait pas le temps de déjouer, M. de Lignières était à présent sous l'impression d'une colère sourde qu'il devait néanmoins contenir, autant par dignité pour lui-même que pour éviter une commotion à la comtesse dont l'agitation n'avait pu lui échapper. Il se sentait pris dans un piège que l'on était parvenu adroitement à lui dissimuler. Et maintenant qu'il n'y avait plus de retraite possible, à moins d'un éclat, le lieutenant de police se résignait à attendre la suite de l'aventure qu'il devait subir. Désormais, il ne chercherait qu'une chose, abréger le plus possible une scène qui ne pouvait qu'être que pénible pour tout le monde. Il s'était mis à marcher à grands pas, allant de la croisée à la porte du salon que le docteur, en sortant, avait laissé entrebâillée. Il put ainsi entendre M. Hébert dire à la personne qu'il avait amené avec lui et qui l'attendait dans l'antichambre. « Du courage, mon enfant !» Instinctivement, M. de Lignières s'était effacé, reculant même de quelques pas lorsque l'aveugle avait paru sur le seuil. Le médecin la conduisait par la main, lui disant à voix intentionnellement haute. « C'est à vous maintenant d'obtenir de M. le comte la grâce de votre sœur. » Louise s'était arrêtée. Et de cette voix, si douce qu'elle avait pour chanter des refrains aux passants et implorer la charité publique, elle murmura, croyant n'être entendue que de son protecteur. « Je tremble. Je n'ose plus avancer. » Ce qui se passa alors fut assurément un coup de maître que le hasard dicta au docteur Hébert. Celui-ci avait, en effet, poussé doucement l'aveugle vers le fauteuil, occupé par la malade, en disant à celle-ci. « Allons, madame la comtesse, dites à cette pauvre petite quelques paroles d'encouragement. » Madame de Lignières voulut lui répondre, mais la voix lui fit subitement défaut. Troublée, les yeux hagards, le visage bouleversé par l'émotion dont son âme était pleine, la comtesse ne parvenait qu'à balbutier quelques mots incohérents. En présence de cette hésitation, le médecin revint avec douceur à la charge. Conduisant par la main l'aveugle tout près de Diane, il dit à la malade « Est-ce que son infortune ne vous touchera pas autant que le malheur de vos autres pauvres ?»« Son infortune ?» murmura la comtesse sous le regard anxieux de Roger. « Oh oui, mon cœur en est profondément ému. »« Parlez-lui alors !» s'exclama le docteur en amenant Louise si près de la comtesse que Madame de Lignières put prendre la main de la jeune fille. À présent, elle n'était plus maîtresse de son émotion. Au contact de cette main, il lui sembla éprouver un rassérénement de son âme, se dégageant tout à coup des tristesses subies et des douloureuses épreuves. Pendant une seconde, elle savoura cette joie inattendue qui lui arrivait dans son long désespoir. Puis, se sentant observé et comprenant qu'il fallait mettre un terme à cette situation dangereuse en présence du comte, elle s'efforça de maîtriser son émotion pour dire à Louise, dont la main tremblait dans la sienne, « Il faut vous rassurer, mon enfant. » Mais à peine l'aveugle entendit-elle ces mots, qu'elle laissa échapper une exclamation de surprise. « Je reconnais cette voix, » dit-elle avec vivacité, en faisant un mouvement pour se rapprocher encore de la comtesse. En ce moment, le visage de l'aveugle s'éclaira d'une lueur de bonheur. Elle voulait parler, interroger. Diane alla au-devant des questions qu'elle devinait. « Vous êtes, » fit-elle, « au milieu de gens qui voudraient vous voir heureuse. » Cette fois, Louise ne douta plus. Cette voix, elle la reconnaissait en effet. En une seconde, elle s'était souvenue, et, impuissante à contenir l'élan de son cœur reconnaissant, « Madame, madame !» s'écria-t-elle, « je vous ai déjà rencontrée, n'est-ce pas? Vous avez déjà eu pitié de moi. » Diane se sentait défaillir, et se tournant vers Roger dans un mouvement d'indicible amour maternel, elle laissa s'exhaler de ses lèvres. « Ah, elle me reconnaît! Elle me reconnaît !» Mais Louise ne voulait plus s'arrêter maintenant dans la manifestation de sa reconnaissance. Elle parlait avec assurance, évoquant le souvenir précis de la scène qui s'était passée sur la place Saint-Sulpice, sous le portique de l'église, alors que la neige tombait à gros flocons et que les mendiants déguenillés grelottaient de froid sur les marches glacées. « Oui, » fit-elle en joignant les mains comme pour adresser encore des remerciements émus à sa bienfaitrice. « Oui, un jour, à la sortie de l'église, vous m'avez donné une pièce d'or en me disant « Priez pour moi, madame, et c'est ici que je vous retrouve. » Puis s'interrompant, « Mais vous êtes donc... » Diane comprit qu'elle devait rentrer dans son rôle officiel. « Je suis la comtesse de Lignières, » répondit-elle. « Alors, » reprit l'aveugle avec émotion, « une fois encore, tendez-moi votre main secourable. » Instinctivement, elle avait avancé les deux mains suppliantes en ajoutant, « Conduisez-moi auprès de monsieur le comte, afin que je le supplie humblement et qu'il m'accorde la grâce de mon Henriette. » Le médecin triomphait. C'était bien là ce qu'il attendait. L'aveugle s'était bien rappelé la leçon qu'il lui avait faite. Roger attendait, anxieux, le dénouement de cette scène attendrissante. En entendant prononcer le nom d'Henriette, il n'avait pu se défendre d'un tressaillement. Ce nom, pensait-il, allait peut-être résonner aux oreilles du comte, pour faire de nouveau éclater la colère qu'il sentait sourdre chez son parent. Monsieur de Lignières s'était en effet tenu à l'écart, comme s'il eût été intérieurement aux prises avec des idées qui se combattaient violemment. Il semblait même qu'il ne fût retenu dans la manifestation de sa mauvaise humeur que par l'attitude de la comtesse. Diane était visiblement sous le coup d'une émotion que son courage seul contenait à grand-peine. Elle avait, avec un mouvement fiévreux, saisi les mains que lui tendait l'aveugle. Pendant quelques secondes, la malheureuse femme s'était arrêtée, chancelante, trouvant l'épreuve au-dessus de ses forces. Puis, faisant appel à tout ce qu'elle pouvait avoir de volonté, elle conduisit lentement Louise devant le comte. Et d'une voix où se trahissait l'angoisse qu'elle subissait en ce moment suprême, « À genoux, mon enfant, » dit-elle, « à genoux. » Louise se prosterna aussitôt. Les mains tendues, elle implora, « Ayez pitié, monsieur le comte. » Mais alors, éperdue, oubliant toute prudence, agitée par la pensée d'implorer aussi, elle, dont la conscience se soulevait, Diane de Lignières fléchit aussi les genoux. Et c'est aux pieds de son mari que, renouvelant la supplique de l'aveugle, elle s'écria à son tour. « Pitié ! Ayez pitié !» Monsieur de Lignières demeura comme interdit devant cette manifestation d'une compassion si vivement ressentie pour une inconnue. Pendant les quelques instants qui suivirent, ses regards allèrent alternativement du visage bouleversé de la comtesse à la figure de l'aveugle, dont les traits exprimaient l'anxiété la plus vive. Louise rompit le silence, et pour la seconde fois s'adressant au lieutenant de police. « Ma sœur est innocente, monsieur, » dit-elle d'une voix tremblante. « Accordez-moi sa grâce, et nous vous bénirons comme notre sauveur. » Monsieur de Lignières voulut mettre un terme à cette situation qu'il sentait si pénible pour la comtesse. D'un geste fiévreux, il prit sur son bureau un papier, un de ces blancs cingles qu'il avait l'habitude d'avoir toujours sous la main pour les cas urgents. Le médecin et Roger s'entre-regardèrent avec un imperceptible signe d'intelligence. La feuille de papier portait le sceau rouge de la lieutenance générale de police. Vivement, le comte s'approcha de l'aveugle, toujours prosterné, et lui dit d'un ton agité. « Vous me demandez la grâce de votre sœur. Tenez, tenez, la voilà. » Et se retournant vers le médecin, « Docteur, ajouta-t-il, vous mettrez vous-même le nom de votre protégé. » « C'est convenu, » s'écria M. Hébert, transporté de bonheur d'avoir si bien réussi. Il avait saisi avec vivacité le blanc cingle et se mit en devoir de relever l'aveugle, tandis que de son côté, Roger offrait son bras à Madame de Lignières pour la conduire à son fauteuil. Guidée par le médecin, Louise marcha vers le comte. « Ah, monsieur, » murmura-t-elle, brisée par l'émotion, « laissez-moi baiser vos mains. » Et ses lèvres tremblantes effleurèrent la main du lieutenant de police. Mais celui-ci ne pouvait se défendre d'une émotion qu'il dissimula aussitôt en disant d'un ton bref, en s'adressant au docteur. « Je ferai expédier cet ordre. Il partira dès ce soir. »« Pour votre antichambre ?» répliqua M. Hébert en riant. Et vivement il ajouta en faisant un pas vers la porte. « Oh, je l'y porterai bien moi-même. »« Je ne comprends pas, » articula le comte, dont les traits prirent aussitôt une expression de sévérité. C'était le moment le plus dangereux de cette situation, déjà si risquée. Roger sentit son cœur se serrer et son regard alla chercher celui de la comtesse. Diane semblait près de défaillir. Certes, si M. de Lignières eût pu voir la pâleur livide qui avait envahi le visage de la malade, il se fût précipité à son secours. Mais le comte ne quittait plus des yeux le docteur, qui se tenait à la porte, tout prêt à appeler celle dont on venait d'obtenir la grâce par surprise. M. Hébert aussi ne parvenait à contenir que difficilement son trouble. Il avait joué une partie désespérée et il s'agissait d'une seconde de colère chez le comte pour qu'il la perdît définitivement. Aussi risqua-t-il le ton bon enfant qui lui avait déjà réussi. Et c'est toujours avec son même sourire aimable qu'il prononça ces mots d'explication que réclamait M. de Lignières. « Ma foi, monsieur le comte, j'ai pris la liberté d'amener aussi celle-là. » Puis sans attendre de réplique, il ouvrit la porte et fit signe à Henriette d'entrer. Aussitôt, les regards de la comtesse et du chevalier se dirigèrent, inquiets, vers cette porte que le docteur tenait ouverte et par laquelle allait apparaître Henriette Gérard. Quant à Louise, elle avait levé vers le ciel ses yeux éteints et sa prière s'envolait vers Dieu. Henriette entra, les yeux baissés, les mains tremblantes, tendues vers le docteur, à qui elle voulut adresser ses premiers remerciements. « Si je vous fais appeler, m'avez-vous dit, c'est que vous aurez votre grâce. » À ces mots de sa compagne, Louise avait fait en chancelant quelques pas, se laissant diriger par la voix. « Henriette, dit-elle, remercie nos bienfaiteurs. » Mais déjà, Mademoiselle Gérard avait aperçu le chevalier, demeuré auprès de la comtesse, et étouffait une exclamation de surprise. M. de Lignières, lui aussi, avait levé les yeux sur celle à qui il venait d'accorder sa grâce. Et reconnaissant la jeune fille qu'il avait faite arracher de sa chambre du faubourg Saint-Honoré pour la faire traîner à la salpêtrière par ses agents, le lieutenant de police laissa éclater sa colère. « Qu'ai-je vu ? » s'écria le comte hors de lui et les poings serrés. « C'était cette femme ! C'était... » Mais la suite de la phrase expira sur ses lèvres frémissantes. Le chevalier de Vaudrey s'était avancé résolument à côté d'Henriette, et oubliant toute prudence, étendant la main vers la jeune fille comme pour la prendre sous sa protection, il interrompit le comte par ces mots prononcés d'une voix ferme. « C'est celle que j'aime, celle que j'aimerai toujours, monsieur, je le jure !» M. de Lignières allait riposter par une de ces menaces qui, chez lui, ne demeurait jamais vaine. Les yeux pleins d'éclairs, il fit un pas pour s'avancer vers le chevalier. Mais aussitôt, Henriette se trouva devant lui, haletante d'émotion, le visage empreint d'une expression de sincérité et de résignation angélique. « Attendez, monseigneur, » supplia-t-elle, « attendez et daignez m'écouter. » Tous les témoins de cette scène pénible attendaient, anxieux, ce qui allait suivre. M. Hébert, le front incliné, s'était rapproché de la comtesse dont l'état d'agitation devenait de plus en plus inquiétant. Alors, Henriette se tourna vers le chevalier. « Monsieur le chevalier, dit-elle, il y a désormais entre nous une barrière infranchissable. Oubliez-moi, car mon devoir maintenant est de vivre pour elle, pour ma chère aveugle, pour elle seule. » La voix de la malheureuse tremblait comme si elle se fût mouillée aux larmes qui l'étouffaient. Cependant, Henriette fit un effort pour reprendre avec calme, s'adressant cette fois à Monsieur de Lignières. « Je vous remercie, monseigneur, de m'avoir rendu cette moitié de ma vie. Pour ce bienfait, je vous sacrifie l'autre. Vos ordres seront respectés, monseigneur. Louise et moi, nous allons partir. » Une exclamation déchirante de la comtesse ponctua la fin de cette déclaration. « Partir ? » s'écria Diane en serrant le bras du docteur qui cherchait à la maintenir sur le fauteuil. « Oui, monseigneur, poursuivait Henriette, vous ne nous reverrez plus, nous disparaîtrons pour toujours. » Le chevalier de Vaudreuil saisit la main de la jeune fille dans un mouvement d'énergie qui témoignait de la résolution formelle de ne pas se laisser séparer de celle à qui il s'était fiancé. Mais le comte, s'en rapportant à la déclaration si sincère d'Henriette, parut s'adoucir. « Soit, dit-il, au prix de ce départ qui devra s'effectuer immédiatement, je ne révoquerai pas la grâce que j'ai accordée. » Étendant le bras vers la porte, « Partez donc, mademoiselle. » Henriette avait passé le bras de Louise sous le sien, et les deux orphelines, en s'éloignant, s'écriaient d'un ton navré. « Adieu, adieu !» Madame de Lignières était demeurée comme foudroyée par les paroles qu'elle venait d'entendre sortir de la bouche d'Henriette. Et voyant que Louise se retirait, entraînée par sa compagne, tous les sentiments de la mère se réveillèrent tumultueusement en elle. N'écoutant que son désespoir, elle se leva vivement, au risque de tomber morte devant le mari impitoyable qui avait en ce moment le droit de la juger et de la châtier avec une inexorable sévérité. Écartant d'un geste le docteur qui lui commandait du regard de ne pas s'exposer, et Roger qui s'avançait précipitamment pour la soutenir, Diane, éperdue, marchait vers les deux jeunes filles en s'écriant « Non, arrêtez! Je ne veux pas! Je ne veux pas !» C'était le cri de la mère qui ne voit plus qu'une seule chose, c'est que sa fille, son enfant dont elle a été séparée violemment, va lui échapper de nouveau, qu'elle ne la verra plus, qu'il ne lui sera plus permis de la presser sur son cœur. C'était le cri que le désespoir arrache et qui doit retentir profondément dans le cœur de ceux qui sont témoins de cette immense douleur maternelle. En le poussant, la comtesse avait perdu le sentiment des graves responsabilités qu'elle assumait. Elle ne répondait qu'au tressaillement de son âme qui venait sortir de la douloureuse résignation imposée depuis tant d'années et que la vue de l'enfant abandonné avait dissipée, comme si la Providence eût jugé que le moment était venu, pour cette mère, de réparer la faute commise autrefois envers la pauvre petite créature. Et Madame de Lignières avait mis dans cette exclamation désespérée toute la force de son âme torturée, tout ce qui lui restait de cette vie déjà si atteinte et qui s'usait rapidement par la douleur éprouvée et le mystérieux chagrin qui la consumait. Mais l'effort avait brisé la malheureuse femme. Elle venait, dans cette seule seconde de trouble, de folie, de rage maternelle, d'activer la marche de la maladie qui l'épuisait depuis si longtemps. La vie lui échappait. Elle eut la sensation d'un déchirement qui se produisait en elle et lui faisait affluer le sang au cœur et au cerveau. Portant avec vivacité la main à son cou, elle s'écria d'une voix saccadée. « Ah, j'étouffe! Je meurs! Je meurs !» Avant que les trois hommes qui assistaient à cette scène eussent pu se porter au secours de la comtesse, celle-ci s'affaissait, évanouie dans le fauteuil. Monsieur de Lignières s'était élancé le premier vers sa femme et donnait les signes de la plus violente douleur. Ses yeux hagards témoignaient d'un sentiment de remords qui se manifestait en lui. Ils se rencontrèrent, lui et le chevalier, auprès de Diane, l'un et l'autre poussant une exclamation d'angoisse. Mais Monsieur Hébert les éloigna doucement. L'ami disparaissait en ce moment en lui pour faire place au médecin. Sans égard pour la douleur si sincère dont le comte et Roger lui donnaient le spectacle, le docteur examinait la malade. Il avait tout d'abord mis la main sur la poitrine de Diane, comme s'il eût redouté que ce cœur eût déjà cessé de battre. Et son visage, demeurant sérieux, inquiet, Monsieur de Lignières interrogea du regard et de la voix avec une anxiété croissante.
Il tremblait de lire dans les yeux du docteur une terrible réponse.
« Eh bien, docteur, » murmura-t-il. « C'est comme un coup de foudre qui l'a frappé, » répondit tout bas M. Hébert en hésitant. Et il ajouta avec un soupir étouffé,
« Je ne puis rien dire, rien encore. »« Qu'avons-nous à redouter ?»
reprit le comte effrayé, le visage témoignant d'une poignante douleur.
Le chevalier de Vaudrey était devenu livide. Il était évident que la colère qui grondait sourdement en lui, depuis que le comte avait voulu exiler les deux orphelines, pouvait maintenant éclater d'un moment à l'autre, allumée par le terrible incident dont Roger faisait remonter toute la responsabilité à M. de Lignières. Le jeune homme s'était approché du docteur et lui aussi attendait la réponse avec un effroyable serrement de cœur. Aussi, voyant que M. Hébert semblait hésiter, il renouvela la question déjà posée par le comte.
« Oui, fit-il, qu'y a-t-il à redouter dans l'état de la comtesse ?»«
Tout, » répondit le médecin d'un ton bref. « Si cet évanouissement se prolonge, si cette douleur secrète qui brise la malade ne disparaît pas enfin ?»
Puis, remué plus qu'il ne voulait le laisser paraître, le docteur Hébert retourna auprès de la comtesse, laissant les deux hommes en face l'un de l'autre, comme des adversaires, tout prêts d'en venir à l'explication violente. Mais à la grande surprise du chevalier, ce fut sur lui que M. de Lignières rejeta la faute d'avoir provoqué la crise que subissait Diane. Le comte saisit vigoureusement le bras de son neveu en disant d'une voix sourde et saccadée par une colère croissante.
« C'est vous, monsieur, qui aurez hâté sa mort.
Moi ? Vous qui m'avez dérobé ce secret qui la tue. » Roger avait fait un mouvement pour repousser celui qui se posait ainsi devant lui en ennemi acharné. Mais son regard rencontra celui du comte et il y lut une si terrible angoisse. Il vit sur ce visage bouleversé la marque d'un si poignant désespoir ravivé par la jalousie qu'il prit instantanément et comme par inspiration une détermination énergique.
« Ce n'est pas ici, dit-il, que je dois, que je puis répondre à votre accusation. Ce n'est pas ici que je puis me défendre comme il convient. »
Et appuyant fiévreusement sa main sur le bras de son interlocuteur étonné, il ajouta
« Venez, monsieur, conduisez-moi dans le cabinet du lieutenant de police. C'est là que je répondrai à votre accusation. À vous, le magistrat. »
Roger s'était incliné sur ce dernier mot. Le comte de Lignières, devinant que la conversation entre lui et son neveu allait prendre une forme et une allure plus vivante encore, se dirigea vers la porte. Le chevalier de Vaudrey le suivit dans son cabinet. Pendant tout ce temps, Henriette et Louise étaient demeurées immobiles, silencieuses, troublées par les plus douloureux pressentiments. Les pauvres enfants attendaient, elles aussi, le dénouement de cette crise. Henriette avait surpris la réponse désolante que le docteur avait faite au comte, et son esprit s'était alarmé à l'idée que leur bienfaitrice, à elle et à Louise, pourrait mourir ainsi d'un moment à l'autre sans avoir repris connaissance. Rien ne saurait donner une idée du chagrin qui s'était emparé de la fiancée de Roger en songeant qu'elle était peut-être pour beaucoup dans ce malheur. La pauvre créature serrait Louise dans ses bras et murmurait des paroles désolées, tandis que de son côté, l'aveugle priait mentalement. Aussi, lorsque Henriette eut vu la porte se refermer sur le comte et Roger, entraîna-t-elle Louise vers le fauteuil où Madame de Lignières, la tête renversée sur le dossier, se trouvait encore en état de syncope. Elles se tinrent pendant quelques instants derrière le médecin sans oser interroger. M. Hébert, continuant à observer sa chère malade, ne les avait pas entendus venir. Mais lorsqu'en se retournant, il les aperçut,
« Ah, mes pauvres enfants » fit-il, « je ne m'attendais pas à ce que vous subissiez une si rude épreuve. »
Henriette eut un mouvement de désespoir.
« C'est nous ! C'est nous !» prononça-t-elle tout près d'éclater en sanglots. « Non, c'est la fatalité qui s'acharne contre la plus noble, la plus digne créature que Dieu ait mise en ce monde, en la marquant pour une existence toute de résignation, d'abnégation, de souffrance. »
En parlant ainsi, le docteur Hébert répondait à un besoin d'épanchement des pensées qui lui venaient depuis qu'il avait assisté à la scène déchirante que l'on sait. Il avait tressailli comme subitement frappé d'un soupçon étrange au cri qu'avait poussé la comtesse en entendant l'adieu que lui envoyaient les deux orphelines. Et, depuis, ses idées se faisant plus nettes, plus précises, il se demandait si ce n'était pas là le dénouement imprévu d'un drame de famille éclatant tout à coup. « Non, pauvre âme, » reprit-il en posant paternellement sa main sur l'épaule de l'aveugle, comme s'il eût invité celle-ci à se prosterner devant Diane. Les deux jeunes filles comprirent. Elles s'agenouillèrent en même temps, saisissant chacune une des mains de la malade. Louise avait appuyé ses lèvres sur les doigts glacés de Madame de Linière, et reconnaissante, elle murmurait « Oh, ma bienfaitrice, que Dieu fasse descendre sur vous sa bénédiction qui sauve les malades et rend le bonheur aux affligés. » Hélas, celle qui était l'objet de cette attendrissante manifestation n'entendait pas les paroles émues que la reconnaissance dictait à cette infortunée contre laquelle des malheurs inouïs s'étaient acharnés. Elle ne voyait pas l'enfant que la Providence lui avait rendu, prosterné à ses pieds et lui témoignant toute l'affection d'une fille. Ah, si en ce moment elle eût recouvré ses sens, comme son cœur se serait ouvert à cet amour filial dont elle avait été privée. Avec quelle ardeur elle eût attiré sur son sein cette pauvre créature qu'elle avait embrassée pour la dernière fois, au moment de s'en séparer pour toujours, qu'elle avait pleuré comme une morte pendant tant d'années, et que Dieu lui rendait aveugle, comme s'il eût voulu la punir de sa faiblesse, de cette défaillance maternelle qui avait laissé s'accomplir cet acte coupable d'abandon. Mais Diane, les yeux clos, paraissait sous le coup d'une de ces syncopes dans lesquelles l'agonisant passe de vie à trépas sans transition violente. Et le docteur Hébert suivait d'un œil inquiet le phénomène de cet évanouissement qui persistait. Il observait d'imperceptibles tressaillements des muscles sur la face livide de la malade et un léger espoir lui revenait, bien léger, car il n'osa en faire part à Henriette, qui l'interrogeait des yeux et attendait une réponse consolante. Bientôt, cependant, le digne homme ne put se défendre d'un mouvement de satisfaction. Son visage s'éclaira. C'est qu'à ce moment, une légère teinte rosée apparaissait sur le visage de Diane, dissipant la pâleur cadavérique qui avait envahi ses traits. Henriette aussi s'était aperçue de ce changement qui ramenait l'espoir. Et ses yeux ne se détachèrent plus de la comtesse, dont les paupières avaient fait un mouvement semblable à celui qui précède le réveil. Le docteur Hébert avait saisi le bras de la malade et comptait les pulsations. Monsieur de Linière, précédant le chevalier de Vaudrey, était entré dans son cabinet de travail, sans avoir, pendant le trajet, prononcer une seule parole. Mais lorsque la porte se fut refermée sur eux, le comte se tourna vers Roger avec vivacité. « Vous avez désiré, lui dit-il, que la révélation que vous avez à me faire eût lieu ici, dans le cabinet du magistrat. Parlez, monsieur, je vous écoute. » Les traits du lieutenant de police s'étaient empreints, à ce moment, d'une expression où le trouble se dissimulait mal sous une intention de sévérité. En dépit de sa volonté ferme de paraître calme, le comte laissait percer l'angoisse dont il était assiégé. Au moment de connaître enfin le secret qu'il avait en vain cherché à découvrir, il éprouvait toutes les violences de l'appréhension. Il avait voulu savoir, et maintenant il avait peur d'apprendre. Après les tourments de la jalousie, son cœur accueillait un sentiment tout autre. C'était comme de la grandeur d'âme qui lui commandait de laisser enseveli un mystère dont la révélation allait probablement atteindre la comtesse dans son honneur, en même temps qu'elle briserait chez lui à jamais le lien d'affection qui l'unissait à elle. Mais cette impression généreuse ne dura qu'une seconde, au bout de laquelle M. de Linière se retrouva l'homme torturé par le doute qu'il avait été depuis tant d'années. Et comme le chevalier, malgré l'invitation qui lui avait été faite de parler, gardait le silence, au moment de donner satisfaction au comte, M. de Linière lui rappela avec véhémence que c'était pour accéder à son désir qu'il avait accordé l'entretien réclamé. « Vous n'avez donc plus le droit, s'écria-t-il frémissant, de me cacher la vérité que je réclame. Il ne vous appartient plus de vous dérober aux questions que je jugerais devoir vous poser. » Et s'avançant d'un pas vers le jeune homme, immobile et pâle d'émotion, « Je ne vous permets plus de vous taire, monsieur. Je vous ai accusé de m'avoir dérobé un secret qui a une si terrible influence sur l'état de la comtesse. Vous avez essayé de vous défendre. Il n'est qu'un moyen de vous innocenter à mes yeux. » Puis après une pause, pendant laquelle il essaya de refouler la colère qui l'envahissait plus violente, il ajouta d'un ton hautain. « Vous n'avez pas craint de manquer au respect que vous me deviez en arrachant de vive force de mes mains une page du livre des archives de la police alors que j'allais y apprendre tout ce qui concernait la famille de Vaudrey. Vous m'avez demandé de venir ici, je n'en doute pas, pour faire amende honorable. Parlez donc, je vous l'ordonne, je le veux. » Poussé à bout par le ton imposant du comte, Roger céda enfin. Frémissant d'émotion, il plongea fiévreusement la main dans la poche intérieure de son habit et en tira un portefeuille. Puis, sans se donner le temps d'une hésitation nouvelle, il prit une feuille de papier, laquelle, malgré le soin qu'on avait pris de la plier, n'en portait pas moins la trace de froissements antérieurs. Et présentant cette feuille toute ouverte sous les yeux du comte, « Eh bien, cette page arrachée par moi, lisez-la donc, monsieur le comte !» Monsieur de Lignières avait saisi le papier avec vivacité. Il la tenait enfin, cette preuve d'un secret qu'il avait soupçonné et dont la pensée avait depuis tant d'années fait le tourment de sa vie. Il allait pouvoir lire ces lignes qui papillotaient maintenant devant ses yeux, sur lesquelles l'émotion qu'il éprouvait faisait passer un nuage. Il poussa une exclamation de triomphe qui retentit jusqu'au plus profond du cœur de Roger. Le chevalier de Vaudrey, à ce moment suprême, pensa à Diane, à cette douce victime précipitée de vive force dans le mariage qu'on lui imposait, et devenue depuis cette union l'épouse soumise à ses devoirs, la femme décidée à racheter par une affection sincère la faute qu'on l'avait forcée de commettre contre sa conscience. Roger voulut que celle qu'il considérait comme une sainte bénéficiât des résistances qu'elle avait opposées aux volontés paternelles. Et il reprit avec véhémence. « Lisez, mais souvenez-vous du passé. Souvenez-vous des prières de Diane et de ses larmes au jour de ses fiançailles. » Mais le comte de Lignières n'écoutait plus. Il dévorait fiévreusement des yeux les lignes tracées sur la feuille de papier qui tremblait dans sa main. Il lut en quelques phrases rapides tout le roman d'amour qui avait servi de douloureux prologue au mariage de Diane de Vaudrey. Il découvrit enfin le secret de cette maladie lente qui consumait la malheureuse qu'on avait impitoyablement, en dépit de ses prières et de ses larmes, rivée à lui. Mais dans l'effroyable désillusion qui le saisissait à l'improviste, il n'y avait pas encore place pour un sentiment d'humanité. Aveuglé par la fureur, touché profondément en plein orgueil par la révélation qui le frappait, pris de vertige, M. de Lignières eut un cri de rage. De ses lèvres frémissantes de colère jaillirent ces mots qui disaient toutes les tortures de son âme, toutes les exaspérations de son orgueil. Déshonoré, trahi, trompé, trompé par elle. Non par elle, riposta Roger ardent à la défense de celle qu'il adorait comme une mère et qu'on accusait devant lui. Non par elle, mais par ceux qui avaient fait de son silence une question de vie ou de mort pour son enfant. Son enfant ? Cette exclamation, que la surprise arrachait au comte, arrivant après la douloureuse révélation de l'amour qui avait uni Diane de Lignières à un autre que lui, avant lui, fut le coup de grâce porté à son esprit déjà si profondément atteint. Le comte demeura un instant comme frappé d'insensibilité et privé de raison. Il porta vivement les deux mains à sa poitrine pour y étouffer la douleur qui le saisissait au cœur et provoquait d'épouvantables tortures. Et les yeux hagards, le front ruisselant des sueurs de l'angoisse, il répétait de cette voix des aliénés. « Son enfant ! Son enfant ! Son enfant !» Cet homme qui se sentait ainsi atteint dans son honneur, ce mari qui se trouvait frappé dans l'amour qu'il avait voué à sa femme, ce gentilhomme qu'un coup terrible foudroyait en pleine confiance conjugale, devenait, par le fait de cette immense désillusion, sympathique quand même, en dépit de ses violences récentes. Le chevalier de Vaudrey se sentit remué jusqu'au fond de l'âme en présence de cet effondrement si rapide de tout bonheur, de toute joie, de toute espérance chez cet époux à jamais désabusé. Son ressentiment tomba aussitôt et c'est d'un ton rempli de respect qu'il reprit. Oui, son enfant, dont elle a été séparée pendant 16 années et que Dieu lui-même vient de ramener près d'elle. Que voulez-vous dire ? Demanda le comte que ces mots avaient subitement ramené de son égarement d'une minute et qui retrouvait toute sa lucidité d'esprit en même temps qu'il rentrait dans toute la sévérité de son rôle d'époux, seul juge de la femme coupable. Le chevalier de Vaudrey laissa éclater la réponse qui devait compléter la révélation si foudroyante qu'il avait commencée. Il rappela brièvement au comte la scène attendrissante qui venait d'avoir lieu entre la comtesse et la pauvre aveugle.
« Quoi ? »
s'écria M. de Lignières.
« Cette fille ? Cette mendiante ?»
Le coup avait été trop violent. Le comte chancela et alla s'affaisser dans un fauteuil. Il se prit la tête à deux mains, donnant à Roger le spectacle d'une douleur, d'un désespoir arrivé à leur paroxysme. Le chevalier attendait, anxieux, la fin de cette crise, d'où allait sortir, pensait-il, quelque résolution énergique, dans un sens ou dans l'autre. Soit que M. de Lignières donnât libre cours à sa fureur, à son ressentiment, soit qu'il se laissât aller à un acte de générosité sublime envers celle qu'il avait le droit de considérer désormais comme une coupable. En ce moment, le combat qui se livrait entre l'esprit et le cœur du mari désabusé devait être acharné, car le comte passait presque sans transition de l'agitation violente à une sorte d'abattement subi. C'est que dans cette lutte intérieure, où les plus nobles sentiments venaient en contact avec les exaspérations de l'esprit et les tumultes d'un cœur brisé par la plus cruelle déception, le comte voyait son honneur atteint et son nom jeté en pâture au scandale. Ses idées se succédaient avec une rapidité vertigineuse, sans qu'il eût le temps de s'arrêter à une résolution quelconque. Et devant cette immense douleur, Roger inclinait le front. Après avoir tenu tête aux parents qui s'étaient mis sévèrement, cruellement même, en travers de son amour et de ses projets, il considérait à présent, avec un respect ému, la victime de cette infortune navrante, l'homme pour lequel le soupçon douloureux était devenu subitement une épouvantable réalité. Quel que pût être le résultat de cette crise, Roger ne se sentait plus le courage de tenir rigueur aux malheureux affligés de ses colères, de ses violences, pas plus qu'il ne se laisserait emporter à des récriminations contre le jugement qui serait prononcé. Et cependant, il ne se dissimulait pas que c'était le bonheur, la vie de Diane, en même temps que l'avenir d'Henriette, qui se jouait en ce moment. Il n'ignorait pas que, sorti de ce cabinet, le magistrat allait reprendre son rôle de mari et que les paroles qui sortiraient de sa bouche seraient un arrêt contre lequel il n'y aurait pas d'appel. Comment se faisait-il qu'en dépit des craintes qu'il éprouvait et des appréhensions qu'il ne pouvait refouler, sa pensée s'apaisait peu à peu et son âme se dégageait aussi des angoisses qui l'avaient assiégée. Roger accueillait, disons-le, les pressentiments qui lui venaient d'en haut, alors qu'élevant son âme, il implorait la Providence pour celle qui lui avait tenu lieu de mère. Il espérait. Soudain, cette accalmie qui s'était faite en son esprit s'évanouit. M. de Lignières avait passé rapidement la main sur son front, et d'un mouvement fiévreux, il froissait dans sa main le feuillet du livre que Roger lui avait remis. Puis, il déchira lentement ce papier. Après cela, le comte releva la tête et fixa son regard clair sur le chevalier. Il était à ce moment transfiguré. Son visage, naguère encore contracté par le tumulte des passions surexcitées, avait retrouvé l'expression froide, sévère, qu'il avait avant les terribles assauts que nous avons relatés. Seul le front soucieux conservait les rides profondes qui avaient creusé les douloureuses préoccupations de l'esprit. C'est sous ce masque composé où l'on eût en vain cherché une lueur de sérénité que le comte de Lignières trouva la parole apaisée pour interrompre le silence qui avait suivi la réponse du chevalier. « Monsieur le chevalier, » dit-il d'un ton qui ne laissait rien deviner de ses intentions, « nous n'avons plus rien à nous dire, ici. » Et saisissant le bras de son neveu, il entraîna celui-ci vers la porte. M. de Vaudreuil le suivait, silencieusement, n'osant interroger. Les deux hommes arrivèrent ainsi jusqu'au seuil du salon où ils avaient laissé la comtesse évanouie, le docteur et les deux orphelines. C'était à la minute même où Diane semblait devoir revenir à la sensibilité. En effet, tandis que la porte du salon s'ouvrait pour livrer passage à M. de Lignières, précédant Roger, la comtesse avait entrouvert les paupières et son regard, encore vague, s'arrêtait sur les deux jeunes filles, toujours agenouillées devant elle. Elle n'avait pas encore la force de se rendre compte de ce qui s'était passé, que déjà elle tendait instinctivement les mains aux chères créatures qui assistaient à ce réveil qu'elles avaient tant appelé de toute leur âme, implorant Dieu de venir au secours de leur bienfaitrice. Le docteur Hébert était radieux. Ce résultat qu'il n'avait pas osé espérer lui donnait confiance pour l'avenir. Mais sa satisfaction s'assombrit tout à coup d'un nuage. En entendant s'ouvrir la porte, il s'était retourné avec vivacité et avait le premier aperçu le comte. Ce retour, se produisant au moment même où la malade reprenait ses sens, pouvait être un danger terrible en provoquant une nouvelle crise dont l'issue serait peut-être fatale. Aussi, M. Hébert se porta-t-il vivement vers les nouveaux venus, dans l'intention de les prier de ne pas se montrer pour le moment. Mais déjà la comtesse avait vu ce qui se passait. En apercevant son mari, la pauvre femme fit un effort pour se lever. Et désignant les deux jeunes filles agenouillées, elle dit à M. de Lignières d'une voix tremblante. « Ah, monsieur le comte, vous avez donc permis qu'elle ne parte pas tout de suite ?» M. de Lignières eut un geste pour protester. Au son de cette voix, à l'accent si maternel qu'avait trouvé Diane, il sentait son courroux gronder en lui, réveillé à l'improviste malgré tous les efforts faits pour le contenir et le dissimuler. Diane attendait, pâle, haletante. Alors, le chevalier de Vaudrey intervint, courageusement, par une de ces phrases qui avait eu raison déjà de la colère du comte. Il s'approcha de M. de Lignières, et tout bas. « C'est son arrêt que vous allez prononcer, » dit-il. Son regard s'arrêta, anxieux, sur le visage du comte, comme s'il eût espéré dicter à celui-ci la seule réponse à faire. Pendant la seconde qui suivit, Dieu envoya au mari tant éprouvé une pensée de clémence dégagée de tous les conseils que souffle l'orgueil humain, la jalousie du passé. M. de Lignières s'inclina comme si une volonté supérieure lui eût commandé de se courber devant une infortune plus grande que celle qu'il subissait lui-même. Et répondant à la question que lui adressait Diane, « Oui, dit-il, je l'ai permis, madame. » La malade, éperdue, porta vivement la main à son cœur, étouffant une exclamation qui était à la fois un cri de bonheur et un remerciement. Mais avant qu'elle eût pu formuler l'expression de sa reconnaissance, le comte reprit. « J'ai compris qu'une éternelle séparation amènerait ici une éternelle douleur. » Il avait de la main indiqué Roger, qui, le visage bouleversé, attendait la fin de cette scène. Puis s'adressant à la comtesse qui tendait vers lui ses mains amaigries, tremblantes, ses pauvres mains dont la fièvre avait dévoré les chairs, il prononça d'une voix paternelle, de cette voix compatissante qui va au cœur des affligés. « Je sais, Diane, toute votre tendresse pour ce fils de votre sœur. Et vous voyant si désespérée de son malheur, j'ai imposé à mon âme, au juste orgueil de ma maison, un bien grand sacrifice. Ces jeunes filles ne partiront pas. » Aucune description de la scène qui suivit ne saurait donner une idée de la stupéfaction qui accueillit les dernières paroles qu'avait prononcées le comte. Diane s'était avancée, chancelante, vers son mari et s'écriait avec joie. « Elles ne partiront pas !» Elle n'osait croire à tant de bonheur et reportant ses yeux pleins de larmes, de douces larmes, celles-là, sur Roger, elle semblait lui demander si elle avait bien entendu, bien compris, si tout cela n'était pas un rêve, l'effet d'une hallucination de son esprit. Puis elle revenait vers le comte, les mains ouvertes, appelant l'étreinte dans un mouvement d'indicible affection pour l'époux qu'elle venait consoler des longues tristesses que sa maladie à elle lui avait fait subir. De son côté, Henriette avait compris. Elle aussi était troublée, et son cœur, sevré depuis si longtemps de ces joies douces de son enfance, débordait de bonheur. Elle haletait, impuissante à exprimer sa reconnaissance à celui qui pardonnait, qui oubliait, qui, ainsi qu'il l'avait dit lui-même, s'était imposé un bien grand sacrifice. Brisée d'émotion, elle murmurait « Ah, Monseigneur, Monseigneur, que ne vous dois-je pas ?» Puis, fléchissant les genoux, elle tomba aux pieds de M. de Lignières, saisit les mains qu'il lui tendait et y posa respectueusement ses lèvres. Le comte la releva. Et toujours sur ce ton paternel qu'il semblait maintenant avoir adopté, il lui dit « Je consens, mademoiselle, à ce que vous demeuriez à Paris. Vous avez reçu l'hospitalité d'un protecteur, d'un homme de bien, auquel j'ai depuis longtemps donné mon amitié et qui veut bien m'honorer de la sienne. » Monsieur Hébert s'inclinant,
Oui, docteur, poursuivit le comte, c'est à vous que je confie pour l'instant la garde de l'orpheline, en attendant. Il s'interrompit, regardant alternativement le chevalier et Henriette qui s'étaient rapprochés l'un de l'autre. Puis, s'adressant à son neveu, Roger, fit-il, je vous reverrai tout à l'heure chez moi, afin de vous faire part de la décision que j'ai prise de réaliser vos vœux les plus chers, et aussi la condition que je mets à votre union. Un cri d'indicible joie interrompit la phrase, exclamation poussée en même temps par les deux jeunes gens qui avaient compris que le comte de Lignières les fiançait l'un à l'autre. Le chevalier aurait voulu demeurer plus longtemps auprès de celle qu'on lui permettait d'aimer après tant et de si terribles épreuves pour son cœur. Il aurait voulu pouvoir aussi rester auprès de la comtesse, traversant en ce moment une crise de bonheur qui pouvait avoir les plus grands résultats sur son état de santé. Mais le regard de M. de Lignières vint lui rappeler qu'il devait y avoir entre eux une explication nouvelle. M. de Lignières mettrait, avait-il dit, des conditions à la réalisation de ses vœux. Le chevalier ne pouvait se défendre de certaines appréhensions. Aussi, au regard que lui adressait le comte, répondit-il par un regard où se lisait une vive anxiété. Mais il fallait obéir. Il alla donc baiser la main de la comtesse qui, les yeux humides de larmes, lui indiquait du regard la pauvre aveugle qui avait peine à contenir son émotion et se tenait les mains jointes comme si elle eût prié. Roger, incliné vers Diane, murmura quelques mots d'espérance. M. Hébert, voulant éviter une nouvelle émotion à sa malade, lui dit tout bas « Partez, mon ami, maintenant que nous avons réussi en grande partie dans la réalisation de nos projets. » Et il entraîna doucement le chevalier vers la porte. Roger, au moment de disparaître, adressa à Henriette un regard où il mit tout ce qu'il avait en lui d'espérance et d'amour. Lorsque la porte se fut refermée derrière Roger, le comte éprouva une sensation de soulagement. La présence du neveu qui avait eu, à la fin, raison de ses sévérités et de sa volonté, n'était pas sans mettre l'esprit de M. de Lignières à une douloureuse épreuve. Arrivé au point de faire taire en son âme tous les sentiments de colère et de violence pour n'écouter que sa conscience qui lui dictait un élan de générosité, le mari de Diane avait voulu que le seul témoin qui fût réellement au courant de la situation ne le troublât pas par sa présence. Aussi ne se donna-t-il plus le temps de revenir sur les bons sentiments qui l'animaient à ce moment. Et allant les mains tendues vers le médecin qui était retourné auprès de la comtesse, « Mon cher docteur, dit-il sans hésitation, vous êtes décidément à la fois le médecin du corps et le médecin de l'âme. Grâce à vos doubles soins, la comtesse de Lignières éprouve en ce moment une amélioration incontestable. » Diane avait levé les yeux sur son mari, et ses joues, naguère encore d'une pâleur livide, se coloraient maintenant d'une légère nuance rosée. « Il ne tient qu'à vous, interrompit le docteur, que cette amélioration que, comme vous, je constate avec bonheur, ne devienne rapidement une belle et bonne convalescence. Je sais quels moyens il convient d'employer pour obtenir ce résultat, répliqua le comte en se maîtrisant pour conserver tout son calme et l'assurance de sa voix. Il faisait un violent effort pour ne rien laisser percer des tourments de son âme en présence de celle dont maintenant il connaissait la lamentable histoire. Les paroles que Roger avait prononcées avec tant de véhémence, en forme de réquisitoire contre les sévérités du marquis, résonnaient encore à ses oreilles, comme pour lui dicter sa conduite envers la victime si résignée à son sort. Pendant une seconde, tous les incidents qui s'étaient succédés depuis cette union qui s'était accomplie, il le savait maintenant, au prix de terribles et cruels sacrifices, lui revinrent à la mémoire pour lutter contre les retours offensifs de son amour-propre et de son orgueil. Il fit appel à toute son énergie pour ne pas faiblir au moment suprême. Et prenant Louise par la main, il invita doucement la jeune fille à se relever. La pauvre aveugle, étonnée de ce mouvement affectueux, eut un tressaillement et sa voix tremblait lorsqu'elle répondit à M. de Lignières. « Oh, monsieur le comte, pourquoi ne permettez-vous pas que je demeure prosternée aux pieds de ma bienfaitrice ?»« Venez, mon enfant, » insista le comte, et conduisant par la main l'aveugle auprès de Diane stupéfaite, « Comtesse, » fit-il avec douceur, « voici de nouveau cette pauvre créature sans appui. » Lorsque mademoiselle, et il indiquait Henriette,
devra se consacrer tout entière à une autre affection, l'orpheline sera bien délaissée et bien triste. » Il regarda la comtesse avec une expression d'infinie douceur, comme s'il eût voulu lui donner le change sur la douleur qu'il éprouvait en ce moment. Et vivement, « Si vous le voulez, madame, eh bien, nous l'adopterons. » Un cri de joie s'échappa des lèvres de la comtesse. Diane s'était levée et regardait fixement son mari, redoutant que celui-ci n'eût voulu la soumettre à une épreuve nouvelle et décisive. Mais sur le visage du comte, elle ne lut qu'une expression de douceur et de compassion sincère. Et, frémissante de bonheur, elle tendit les bras pour recevoir sur son cœur l'enfant qu'on lui rendait, l'ange qu'on lui permettait d'aimer sans contrainte, ouvertement, comme les mères aiment les chers petits êtres qu'elles ont mis au monde et dont elles ont entouré l'enfance de toute leur sollicitude, de toute leur tendresse. Solennellement, le duc ajouta en baissant la voix, « Elle sera notre fille !» Ce fut Louise qui répondit. Elle s'était retournée avec vivacité vers le comte, comme si ses pauvres yeux éteints allaient retrouver leur éclat pour regarder celui qui se proposait de l'adopter.
« Moi ? Votre fille ? » s'écria-t-elle.
Mais déjà la comtesse était tombée aux genoux de Monsieur de Lignières et baisait avec transport les mains de celui qui venait de s'élever à ses yeux au plus haut degré de grandeur d'âme et de générosité qui se pût imaginer. Et tandis que ses lèvres frémissaient sur ses mains agitées, elles aussi par l'émotion contenue, Diane murmurait.
« Oh, monsieur, vous savez tout, et je veux tout oublier, » répondit le comte.
Puis montrant l'aveugle, qui elle aussi s'était agenouillée, « Embrassez-la donc, madame, » ajouta-t-il. Cette fois, la mère ne put contenir l'élan de son cœur. Elle saisit à deux mains la tête chérie et l'embrassa avec effusion, tandis que remué jusqu'au fond de l'âme, Monsieur de Lignières balbutiait. « Et appelez-la votre fille !» C'en était trop pour la nature si impressionnable et déjà si éprouvée de la comtesse. Diane donna un libre cours aux larmes qu'elle avait contenues jusque-là. Et c'est au milieu des sanglots, alternant avec ses baisers maternels, qu'elle s'écria « Ah, ma fille ! Ma fille !» Ce fut alors le tour du docteur d'intervenir. S'avançant avec émotion vers la comtesse, « Ah, les voilà enfin, ces bonnes larmes tant désirées !» Et il avait pris, avec un sentiment tout paternel, les mains de Diane qu'il pressa avec joie dans les siennes. « Maintenant, s'écriait-il au comble de la satisfaction et de l'orgueil professionnel, je puis répondre de la guérison rapide et complète. » Puis se tournant vers Monsieur de Lignières, « Monsieur le comte, ajouta-t-il, vous étiez le seul médecin consultant que je voulusse appeler auprès de notre cher malade. Et vous voyez qu'à nous deux, nous avons eu raison de cette mystérieuse affection si longtemps rebelle à ma science. » Il avait appelé Henriette auprès de lui d'un imperceptible signe de tête. Et la présentant au comte, « Je vais emmener avec moi celle que vous voulez bien laisser sous la garde de mon affection paternelle. C'est chez moi que vous pourrez la retrouver, le jour où vous aurez une bonne nouvelle à lui apprendre. » Louise avait entendu, et s'adressant au docteur, « Vous voulez donc me séparer d'Henriette ? » demanda-t-elle avec inquiétude. Ce fut le comte qui répondit. « Dites donc à cet enfant, madame la comtesse, » fit-il d'un ton radouci, « dites-lui que vous désirez la garder auprès de vous, puisque vous avez voulu que nous soyons tous deux ses protecteurs, ses amis, ses parents d'adoption. » Diane leva sur le comte ses yeux baignés de larmes. Et dans ce regard, il y avait un remerciement parti du fond de l'âme. Quant à Louise, émue et toute tremblante, elle caressait les mains de la comtesse en disant à celle-ci « Ah, madame, si je pouvais vous voir !»«
Vous la verrez !» s'écria le docteur Hébert avec conviction. « J'en fais mon affaire !»
Diane avait fixé les yeux sur son médecin.
« Quoi ? » fit-elle. « Docteur, vous pourriez... »
Monsieur Hébert, revenu de son mouvement d'enthousiasme, leva les yeux au ciel en murmurant « Je la soignerai, madame. Dieu la guérira. » Tout le monde comprenait qu'il était temps de mettre un terme à cette scène qui avait été si émotionnante pour ceux qui y avaient pris part. Aussi, s'adressant à Henriette, le docteur Hébert commença en ces termes. « Il va vous paraître cruel, mon enfant, après avoir retrouvé miraculeusement votre compagne, votre amie d'enfance, celle que vous avez toujours considérée comme la plus douce, la plus affectueuse des sœurs. Il va vous sembler bien cruel, dis-je, de demeurer séparée d'elle. Il le faudra, cependant. Vous comprenez que monsieur le comte de Lignières, en accueillant cette pauvre déshéritée, fait acte pie, mais qu'il a pour excuse l'inépuisable charité de madame la comtesse. Toutefois, cette charité ne peut, quant à présent, s'étendre jusqu'à vous, mon enfant, pour qui ce sera un devoir d'attendre, dans la retraite que vous trouverez chez moi, que monsieur le comte ait jugé le moment venu de vous réunir à votre amie, à votre chère Louise. Oh, je sais ce que vous voulez dire, monsieur, et c'est au pied de monseigneur que je fais de nouveau le serment d'être obéissante aux volontés de monsieur le comte, quoi qu'il doive en coûter à mon cœur. Après cette déclaration si formelle et si émue à la fois, Henriette s'était levée, et courant prendre Louise dans ses bras, elle la tint pressée sur son cœur, mêlant ses larmes aux siennes, et murmurant à cette amie de son enfance toutes les protestations d'affection fraternelle, tous les vœux qu'elle formait pour son bonheur à venir, toutes ses espérances enfin. Et Louise répondait « Oh, ma sœur bien-aimée, Dieu nous a pris en pitié, après tant et de si pénibles épreuves. Remercions-le, ma sœur, et bénissons-le chaque jour dans les prières que nous lui adresserons. » Yann prit alors la parole. « Vous ne serez plus séparés, chère créature, comme vous l'avez été pendant ces longs mois qui viennent de s'écouler. Celui qui a voulu que vos tourments, vos infortunes prennent fin en ce jour béni que je n'oublierai de ma vie, celui-là permettra que vous vous revoyiez. » Et comme monsieur de Lignières, absorbé, ne répondait pas, « Oui, poursuivit la comtesse, lorsque notre bon docteur viendra rendre visite à la chère enfant, qu'avec l'aide de Dieu, il va guérir de la cécité dont elle est affligée, vous l'accompagnerez ici, mon enfant. » « Certes, ajouta monsieur Hébert, mais il arrivera quelquefois que je désirerai observer l'état de ma petite malade, en présence de mes élèves à Saint-Louis. Alors c'est toi, ô mon Henriette, qui viendras me chercher ici pour me conduire auprès du docteur. » Et se tournant instinctivement vers le comte, « N'est-ce pas, monseigneur ?»« Oui, j'y consens, » soupira le comte en regardant longuement Diane, qui, rompant avec toute contrainte, avait attiré l'aveugle sur son cœur et l'embrassait avec effusion. « Oui, ma fille, » conclut-elle en permettant à Henriette de lui baiser les mains. Monsieur de Lignières se dirigea vers la porte. Puis au moment de sortir, « Docteur, » prononça-t-il, « je vous laisse prendre avec la comtesse les arrangements qui conviendront le mieux pour que ces deux jeunes filles puissent se rencontrer souvent, soit ici, soit ailleurs. » Et succombant à l'émotion qui l'étouffait, le comte de Lignières ouvrit vivement la porte et disparut.